Donc vous mettez en avant dans votre livre une sociologie féministe. Qu'est-ce que pour vous une sociologie féministe, qu'est-ce que pour vous ce type de sociologie, qu'est-ce que ça veut dire être une ou un sociologue féministe? Et donc c'était une question qui nous intéressait beaucoup parce que c'est un débat actuel et un débat épistémologique.
Donc une sociologie féministe. Alors c'est la première fois en fait que nous on assume de dire ça dans un livre et dans un écrit. On n'a jamais écrit dans un article avant, on s'est jamais présenté comme ça avant. Mais ça nous paraissait plus clair de le faire parce que en fait quand on fait donc voilà, ce livre c'est un livre de sociologie dont on espère dont on a fait en sorte qui puisse donner lieu à des discussions scientifiques avec, enfin voilà, on a utilisé les méthodes scientifiques qui font qu'on peut en discuter, on peut discuter de notre méthodologie, du recueil de nos matériaux, des analyses, des concepts qu'on manipule. Donc on est très attaché en fait à présenter notre démarche comme une démarche scientifique. Mais c'est une démarche scientifique qui bien sûr a une portée politique, a des enjeux politiques. Et en fait, en réalité, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que voilà, quand Thomas Piketty étudie les inégalités économiques, eh bien, il a lui aussi une visée politique qui est de réduire ces inégalités. Donc, je pense que c'est très compliqué de travailler sur les inégalités sans penser qu'il y a un enjeu politique à les réduire. Moi, je ne connais pas de sociologue des inégalités qui ne souhaiterait pas réduire ces inégalités. Et ça nous a paru d'être mieux en le disant parce que aussi, on a utilisé des concepts. Qu'on a mentionné ici, hein, par exemple, des concepts qui viennent de la théorie féministe, comme par exemple le concept de travail domestique. Voilà, avant les années 70, on ne parle pas de travail domestique et ça a été l'objet des travaux scientifiques des féministes que de qualifier le travail domestique de travail et non pas seulement de tâches ménagères ou d'activités ménagères. Et du coup, ça nous importait aussi de pas seulement rendre hommage, mais aussi de nous inscrire dans cette lignée-là pour ce livre. Donc, voilà.
Bonjour, donc moi je m'appelle, je suis Marion Parra et j'ai lu votre livre et je l'ai décortiqué et ça m'a fait à la fois beaucoup de bien et ça a fait émerger aussi beaucoup de questions puisque moi je travaille essentiellement sur les inégalités, en tout cas la vie quotidienne des femmes en situation de monoparentalité. Et je m'intéresse évidemment aux inégalités de genre, mais aussi beaucoup aux inégalités d'origine. Et dans votre livre, je me suis particulièrement intéressée aux exemples que vous avez donnés sur les classes populaires et le traitement des classes populaires auprès des notaires. Et notamment vos propositions de réflexion sur une révision de la sociologie de la famille. Puisque quand on se penche sur la monoparentalité au féminin, on a vraiment l'impression que la famille, c'est aussi le berceau des inégalités, pas seulement économiques, mais et les inégalités. Et donc ça, c'est pour vous situer un peu d'où je viens. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que dans le travail que vous poursuivez, vous envisagez aussi de travailler sur les inégalités entre les femmes de différentes classes sociales, puisque vous avez nommé les femmes de classe populaire qui gèrent la misère au quotidien de leur propre famille, mais elles gèrent aussi le confort de la vie quotidienne des femmes qui ont du patrimoine. Et que donc, il y a une sorte de… Ce n'est pas un plafond de verre, c'est un mur de verre qui est… au niveau horizontal entre femmes de classe sociale et d'origine très différente, qui interroge aussi sur l'augmentation des inégalités, non pas entre femmes et hommes seulement, mais entre femmes de classe sociale et d'origine sociale. Puis j'avais d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez regardé les différents documents de la CAF, mais en ce qui concerne comment les parents sont nommés, si vous allez sur les questionnaires de la CAF pour faire l'évaluation des actions des REAP, Réseau d'écoute, d'aide et d'accompagnement à la parentalité, on parle des parents. Et puis, il y a une petite question qui parle de la place des pères. Et du coup, que fait-on de la place des mères ? Elles sont parents, donc c'est la mère étant le travail de la mère semble être invisibilisé et on se préoccupe de la place des pères. Voilà, ça interpelle, je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais du coup, les institutions ont un peu le même langage que les notaires et les juges en termes de perception différenciée de la place de l'homme dans la famille et de la femme dans la vie publique. Voilà, je m'arrêterai là. Merci.
Merci beaucoup pour ces questions. Moi, en tout cas, Céline dira si elle en a une idée plus précise, mais je ne connais pas ces questionnaires des caisses d'allocation familiale. Mais ce que vous dites, comme vous le remarquez, hein, ça rejoint totalement ce qu'on observe chez les professionnels du droit, c'est-à-dire le fait que finalement, la parentalité de la mère n'est pas interrogée. Elle est censée être là par défaut. Elle est là et elle sera là si le père n'est pas disponible. Donc voilà, ça rejoint là ce que vous dites. Alors sur la question des inégalités entre femmes, vous évoquez hein, ici, si j'ai bien suivi votre propos, le fait que effectivement, les femmes de classe supérieure peuvent déléguer une partie du travail domestique à d'autres femmes hein, plus pauvres qui, à la fois, sont chargées du travail domestique et de la gestion de la misère dans leur famille, mais se retrouvent aussi à prendre en charge de façon généralement mal rémunérée le travail domestique dans les familles plus riches. Alors, ce qu'on essaye de montrer dans notre travail, c'est... Effectivement, on essaye quand même de donner à voir cette forte inégalité. On démarre le livre par une comparaison entre Ingrid Levavasseur, donc, qui était une des porte-paroles des Gilets jaunes, et Mackenzie Scott, ex-Mackenzie Bezos, donc l'ex-femme de l'homme le plus riche du monde, qui est elle-même la femme la plus riche du monde. Et on essaye de montrer comment les deux se sont... pour l'une, on pourrait dire vraiment appauvrie au moment de cette séparation, et pour l'autre, hein, devenue moins riche, et en tout cas beaucoup moins riche que son ex, tout en soulignant évidemment le fait que les vies de ces deux femmes n'ont absolument rien à voir. Et en même temps, ce qu'on essaye de montrer, par exemple, au travers du cas des magistrates, on essaye de comprendre pourquoi ces magistrates, de la même façon qu'on essaye de comprendre pourquoi les notaires, au fond, ne remettent jamais en cause des partages successoraux, de patrimoine conjugal inégaux, on essaye de comprendre pourquoi ces femmes juges aux affaires familiales sont si dures d'une certaine façon avec les femmes qu'elles ont en face d'elles. Et donc, on a essayé de les caractériser socialement. Donc, ce sont des femmes de classe supérieure, ce sont des femmes qui effectivement délèguent une partie de la prise en charge de leurs enfants, leur ménage, à d'autres femmes. Et dans le même temps, ce qu'on constate, et c'est ce qui nous permet de comprendre leur position, en même temps, ce sont des femmes qui sont quand même bien plus en charge du travail domestique que leur conjoint. C'est-à-dire que ce sont elles qui embauchent la femme de ménage, qui la rémunèrent, qui échangent avec elle, ce sont elles qui embauchent la jeune fille au père, ce sont malgré tout elles qui vont suivre les devoirs, faire le suivi médical de leurs enfants. Et du coup, elles restent dans un modèle finalement assez traditionnel de partage des tâches avec leur conjoint, tout en effectivement ayant la possibilité de déléguer et donc de toucher des revenus aussi qui sont importants, ce qui provoque aussi du coup une incompréhension par rapport aux demandes de justiciables de classe populaire. J'ai en tête par exemple une juge qui s'étonne du fait qu'une justiciable dit que ça lui pose problème que son ex-conjoint ne prenne pas les enfants à l'heure prévue le vendredi, parce qu'elle, ça lui pose des problèmes par rapport à son travail. Et la juge dit, mais enfin, on peut s'arranger, on fait garder les enfants. Donc, en fait, à la fois leur rapport assez traditionnel à la division sexuée des tâches et leur position sociale expliquent leur incompréhension à la fois vis-à-vis des femmes de classe populaire et des femmes de classe supérieure, plus dans le pôle capital économique des classes supérieures, qui sacrifient davantage qu'elles leur carrière professionnelle à celle de leur conjoint. Voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais...
Oui, c'est un élément de réponse. J'aurais peut-être une autre lecture, mais on va laisser la parole aux autres.
Donc ensuite, on a une question dans le chat. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt une remarque. Mais donc, il y a écrit, vous avez parlé à plusieurs reprises de spécialisation des femmes, notamment au niveau du travail domestique. Il me semble que c'est plus une assignation qu'une spécialisation. Le soin des autres est une assignation des femmes à ce rôle qui joue aussi bien dans la sphère familiale que dans la sphère professionnelle. Les métiers du care à majorité féminine, donc sous-payés. Donc c'est plutôt une remarque au niveau du vocabulaire. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, sur cette distinction entre oui. spécialisation et assignation.
Oui, moi je veux bien. En fait, il y a un mot qu'on discute dans le livre, c'est le terme de choix. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que les femmes font le choix de s'occuper de leurs enfants ou de s'occuper du travail domestique. Donc, il y a une négation hein, à ce que je viens de dire avant. Je parlais à son ordinateur, comme ça on se demande si c'est clair. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouvait, et ça c'est vraiment très fréquent dans les dossiers de divorce. C'est précisément à des moments de discussion d'éventuelles compensations, donc du type prestation compensatoire. Dans les écrits des professionnels du droit, on retrouve souvent des discussions sur elle a fait le choix de s'arrêter de travailler, elle a fait le choix de se mettre à temps partiel. Voilà. Et ce vocabulaire du choix est très présent. Et ce vocabulaire du choix, j'imagine, ou peut-être c'est moi qui interprète la différence entre assignation et spécialisation, c'est pas parce qu'on emploie nous le mot spécialisation qu'on veut dire qu'il y a un choix. On pense que c'est pas du tout des choix. Et ce qui est terrible, c'est que au moment des séparations conjugales, dans ces écrits des professionnels du droit qui se baladent du coup dans les dossiers de divorce, on fait comme si c'était un choix individuel. Alors, ce à quoi répondent les femmes quand on leur dit « mais c'était un choix individuel de se mettre à temps partiel », elles répondent « mais non, c'était un choix du couple que de s'organiser de cette façon-là ». Et ce vocabulaire du choix, il est très mauvais. Et en tant que sociologue, on l'aime pas, parce qu'il fait comme si les personnes avaient plusieurs options et prenaient la meilleure option pour elles, alors que ça ne se présente pas du tout de cette façon-là. Il y a des mécanismes de socialisation. En fait, tout marche ensemble. Comme le disait Sybille il y a un instant, on présuppose que les femmes sont toujours disponibles pour leurs enfants. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on voit aux affaires familiales. C'est-à-dire qu'il y a très, très, très peu de mères. C'est vraiment rarissime des mères qui renoncent, qui disent « bah non, moi, la résidence de mes enfants… ça ne m'intéresse pas ou je ne la veux pas ». Ça n'arrive jamais. Et ça n'arrive pas parce qu'il y a toute une socialisation antérieure qui fait que c'est inacceptable pour une femme de ne pas s'occuper de ses enfants. Ce n'est pas des histoires de choix, c'est des histoires de socialisation. À cela, bien sûr, s'ajoute ce qui se passe sur le marché du travail professionnel qui fait que les hommes gagnent davantage que les femmes et que donc, du coup, les couples, ils se mettent rarement autour de la table pour dire « c'est toi qui va prendre ton mercredi après-midi ». Ça ne se déroule pas de cette façon-là. C'est vraiment des mécanismes de socialisation et de reproduction des rôles genrés. Donc, il ne faut pas entendre dans ce terme de spécialisation qu'on emploie une volonté nécessairement de la part des femmes ou en tout cas un choix. Je ne sais pas, Sybille, si tu veux réagir, mais c'est difficile. Peut-être que si la personne pouvait nous dire ce qu'elle entendait par cette différence entre spécialisation et assignation. En tout cas, c'est très contraint par tout un ensemble de mécanismes sociaux, cette division du travail entre les hommes et les femmes. Voilà comment je le présenterais.
Effectivement, c'est un usage un peu… C'est un langage plus d'économiste, hein, la spécialisation. Alors en plus, les économistes considèrent, y compris en économie de la famille, que les hommes et les femmes se spécialisent en fonction de leurs avantages comparatifs. sans se demander pourquoi les femmes magiquement sont meilleures pour faire le ménage et que les hommes sont meilleurs pour gagner plus d'argent. Mais effectivement, ce vocabulaire d'économiste, il a tendance à invisibiliser tous ces mécanismes historiques de socialisation comme si cette spécialisation, c'était une spécialisation négociée, rationnelle, etc. Donc, votre remarque, je trouve, est assez juste.
Merci beaucoup pour votre réponse. On a Isabelle Saint qui a une question pour vous.
Oui, avant de poser ma question, je reviens sur la question du choix, parce que oui, tout à fait d'accord. Et l'idée aussi, c'est que quand on va travailler sur les écrits des juristes sur la question du choix en matière de prestations compensatoires, on voit bien que les juristes qui sont généralement pour la diminution de la prestation compensatoire, ils utilisent la question du choix. Donc, madame a choisi de ne pas travailler et donc elle va en assumer les risques et donc il n'y a pas lieu de lui donner une prestation compensatoire. Donc, on voit bien que la rhétorique du choix, elle a pour objectif de faire assumer à la seule femme les conséquences du travail domestique qu'elle a fait et donc de faire disparaître, pour elle en tout cas, la prestation compensatoire. Et c'est très, très net dans les écrits des juristes savants de la doctrine où le choix, ça veut dire… Et on voit bien que c'est très rare que le choix soit renvoyé à un choix du couple. Je reviens évidemment sur la question de la prestation compensatoire. Vous l'avez dit, c'est le seul mécanisme qui a pour objet expressément de compenser l'inégalité de fortune au moment de la séparation, qui est pour le moins très imparfait et qui en même temps ne concerne que les époux. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a autant de mariages que de pacs, et pour les pacs, il n'y aura même pas ça. Et il n'y aura même pas le régime matrimonial légal qui concerne quand même une grande majorité encore des époux et qui, même s'il justifie des partages inégalitaires au moment de la séparation, justifie quand même l'attribution d'une partie du patrimoine à la femme. Alors que dans le pacte, il n'y a plus ça du tout. Donc, avec les années, ça ne peut que s'aggraver. Ce que je voulais juste ajouter sur la question de la prestation compensatoire, c'est que vous avez parlé du rôle des JAF, qui effectivement, elles travaillent et considèrent que ces dames pourraient bien travailler, des notaires qui procèdent à des partages, comment vous avez dit, inversés. Et puis, il y a aussi le rôle des avocats et de l'autocensure. Alors, suscité ou pas par les avocats, mais comme les juges ne font que répondre aux demandes qui leur sont posées, effectivement, il y a beaucoup de séparations dans lesquelles il n'y a pas de demande de prestation compensatoire. On aimerait bien savoir si on n'est pas dans des situations dans lesquelles il pourrait y avoir une demande de prestation compensatoire. Donc, il y a vraiment une forme d'autocensure avec une forme de conception de l'égalité, mais je crois que c'est Anne Révillard qui a travaillé là-dessus, une forme de conception de l'égalité où l'égalité consiste à ne pas demander de compensation plutôt que de revendiquer une compensation, en particulier au travail domestique qu'on a effectué pendant des années. Et puis, juste encore une réflexion, c'est qu'effectivement, toujours sur cette prestation compensatoire, on voit bien dans les chiffres qu'elle est pour le moins modeste, et puis qu'elle baisse de façon assez continue. Et c'est étonnant de voir que dans les textes juridiques, la question du travail domestique, ça a été très discuté, enfin, ça a été un peu discuté au Parlement, c'est arrivé dans le Code civil, puis ça a été retiré, puis c'est revenu. Donc, l'expression n'est peut-être pas travail domestique, mais c'est l'investissement dans le travail familial, en fait, je ne sais plus les termes exacts. Donc, le travail domestique est revenu dans les textes, et en même temps que ce travail domestique est revenu dans les textes, la pension, les prestations compensatoires ont continué à diminuer avec des réformes qui continuent à les faire diminuer. Donc, il y a une espèce de compensation par le discours de la baisse en fait, de la prestation compensatoire. Et dernière précision, quand on travaille sur le genre du capital, on travaille sur des familles dans lesquelles il y a un capital à partager, éventuellement de façon inégalitaire, et les chiffres qui sont fournis sur la prestation compensatoire, elle concerne l'ensemble des divorces, y compris des divorces dans lesquels il n'y a pas de patrimoine du tout à partager. Et donc, dans lesquels la question de la prestation compensatoire, elle ne se pose pas, même si monsieur a des revenus réguliers et que madame n'a jamais travaillé de sa vie, la question de la prestation compensatoire ne se pose même pas, parce qu'en fait, il n'y a rien à partager, s'il y aurait à partager, mais en tout cas, pas de capital. Voilà, merci.
Alors, merci beaucoup pour l'ensemble de ces remarques. On rejoint tout à fait ce que vous soulignez et qui est très important, c'est que effectivement, ce dispositif de la prestation compensatoire qui vient compléter le dispositif du régime matrimonial légal, hein, la communauté de biens réduite aux acquêts, qui fait que effectivement, quand on voit les inégalités de patrimoine en 98,9%, c'est nettement moins que les inégalités de revenus. Et ça, c'est vraiment lié au fait qu'à l'époque, la forme majoritaire d'union, c'était le mariage sous le régime de la communauté de biens, qui faisait que les inégalités de revenus hein, étaient largement atténuées par le partage à part égale du patrimoine accumulé pendant la vie conjugale. Et donc, l'augmentation des inégalités de patrimoine entre femmes et hommes, elle accompagne effectivement l'augmentation du Pax, des unions libres, où il n'y a pas ce mécanisme du régime de la communauté de biens. Aussi le fait, hein, Céline l'a dit, qu'il y a de plus en plus de couples qui se marient en séparation de biens, souvent au nom de l'autonomie financière, en fait. On se dit bah, pourquoi, alors qu'en réalité, cette autonomie financière, elle n'est pas totalement réalisée et elle camoufle hein, des inégalités encore très fortes. Et effectivement, hein, ce qu'on essaye de souligner, je pense qu'on est plusieurs à travailler sur ces sujets, à commencer à le dire, c'est les problèmes en termes d'inégalité que pose l'augmentation du poids de l'union libre. Une des inquiétudes aussi qu'on peut... c'est pas du tout hein, qu'on veut obliger les gens à se marier, que j'ai pas l'air de dire ça, mais il y a des effets non anticipés, en fait, parce que un truc qui nous semble important, par exemple, c'est les retraites. La pauvreté des femmes aux grands âges, elle a été à l'origine de la mise en place de la pension de réversion. Le fait hein, que le veuf, ou plus souvent la veuve, touche une partie des droits à la retraite de son conjoint décédé. Bon, ben ça a permis d'éviter la très grande pauvreté de beaucoup de femmes âgées. Or, aujourd'hui, arrivent à l'âge de la retraite et à l'âge du veuvage des femmes qui ont vécu en couple sans être mariées. Et ça, notre système de retraite ne l'anticipe pas du tout, et même hein, les réformes prévues jusqu'à présent risquent au contraire d'aggraver la situation. Donc ça, cette question hein, des effets de la montée de l'union libre et de l'inadaptation de notre droit en fait, à compenser ces inégalités, c'est quelque chose d'important. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur la prestation compensatoire. Une des raisons pour lesquelles les prestations compensatoires baissent, c'est qu'on est passé à partir de 2000 d'un système qui était un système de rente. De fait, des hommes, même sans patrimoine, mais avec des revenus corrects, pouvaient verser une prestation compensatoire sous forme de pension mensuelle à leur ex-conjointe. Et ça, c'est un truc intéressant aussi, c'est qu'en 2000, c'est avec des motivations féministes que des députés ont demandé le passage de cette prestation sous forme de... Alors, entre autres, hein, mais il y avait aussi une défense féministe de cette réforme, qui était de dire qu'il faut en finir avec cette rente viagère qui maintient la dépendance entre les ex-conjoints et demander le versement d'un capital une fois pour toutes ou au max étalé sur quelques années pour qu'on ait fait les comptes et que la femme soit enfin libérée en fait, de cette dépendance. Or, qu'est-ce que ça a produit cette réforme ? Le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus que les hommes qui détiennent des liquidités, donc un capital sous forme liquide, qui paye des prestations compensatoires. Et juste pour terminer, pour réagir au point que vous souleviez, sur l'autocensure des avocats et des avocates. On a effectivement été frappé par le fait que, y compris des avocates qui nous semblaient particulièrement investies dans leur dossier, particulièrement pugnaces, soucieuses de défendre les intérêts de leurs clientes, avec hein, une perspective féministe d'empowerment de leurs clientes, et bien y compris ces avocates considéraient, par exemple, on donne un exemple d'une avocate comme ça qui explique « Bon, voilà, là, ma cliente, il faut que je la pousse à bien demander sa part du patrimoine conjugal. Donc, je lui ai dit hein, de bien faire valoir ses droits, qu'il est hors de question qu'elle accepte tel quel les arrangements proposés par son ex, etc. » Puis elle nous dit « Bon, maintenant, donc, c'est une dame qui est mariée à un chef d'exploitation, à un agriculteur. » Elle nous dit « Bon, maintenant, il est évident que on ne pourra pas obliger monsieur à vendre son exploitation. » Donc, elle-même, considère que voilà, il y a un patrimoine familial auquel on ne peut pas toucher et ça borne complètement ces demandes. Et par ailleurs, on constate que globalement, y compris parce qu'on nous demande des adresses en fait, quand on parle de notre travail, il y a des gens qui disent ah, est-ce que vous connaissez une avocate féministe pour une séparation, etc. Ben, en fait, on a rencontré très très peu d'avocats ou d'avocates qui envisageaient leur travail en droit de la famille dans une perspective militante et féministe. Il y a par exemple des avocats et des avocates qui travaillent sur les violences conjugales, qui ont une perspective féministe. En droit de la famille, c'est vraiment c'est rarissime, c'est-à-dire que les avocats, il y a des avocates qui défendent leurs clientes de façon, elles sont même généralement, elles ont la réputation auprès de leurs confrères et consoeurs d'être agressives, etc. Mais c'est rarement, enfin, elles-mêmes, elles pensent rarement leur travail comme une lutte contre les inégalités économiques entre femmes et hommes. Et pour nous, c'est un des enjeux de notre ouvrage, c'est essayer de faire percevoir ce qui se passe dans les séparations comme des enjeux féministes de lutte contre les inégalités entre femmes et hommes.
Moi, je voudrais rajouter une toute petite chose à la question d'Isabelle Saint. Toujours cette dernière question sur l'autocensure des avocats, et vous avez rajouté qu'en fait, on était dans une conception de l'égalité qui consistait à ne pas demander de prestations compensatoires. Et ça, c'est quelque chose qui nous est apparu, même quasiment une fois qu'on avait terminé le livre, c'est combien les inégalités dont on parle dans ce livre, les inégalités économiques, les inégalités patrimoniales dont on parle dans ce livre, qui sont des produits de la norme égalitaire qui s'est imposée. C'est-à-dire, donc là, vous en donnez un exemple avec les prestations compensatoires, il y en a d'autres dans le livre. C'est au nom de l'égalité que les femmes vont vouloir payer autant les dépenses. Donc là, ce n'est pas des enjeux de patrimoine, c'est même des enjeux de revenus. Donc, 42% d'écart de revenus entre les hommes et les femmes. Il y a plein de femmes qui veulent payer la moitié du loyer ou qui veulent payer la moitié des dépenses du foyer au nom de l'égalité. Au nom de leur indépendance économique. Et de la même façon, ce que vous dites là, au nom de leur indépendance économique, on ne demande pas de prestations compensatoires parce que ça serait finalement dire qu'on n'est pas indépendant économiquement que de dépendre des revenus ou du patrimoine de son conjoint. Et en fait, on est quand même dans une société où l'égalité économique, on n'y est pas. Et où en même temps, les quelques mécanismes qui avaient protecteurs comme le mariage, comme les prestations compensatoires se sont affaiblis. Et au nom de l'égalité, et donc au nom de l'égalité, on a de l'inégalité qui se développe. Et voilà, ce paradoxe de la norme égalitaire et des pratiques inégalitaires me paraît vraiment au centre des enjeux qu'on développe dans le livre. Merci beaucoup Isabelle pour toutes vos questions.
Bonjour. Moi d'abord, merci pour cet ouvrage parce que moi, je suis toujours réjouie quand des chercheurs, chercheuses, des scientifiques nous permettent d'objectiver ce que l'on sait par la multiplicité des dossiers qui nous passent sous les yeux et pratiquer le féminisme de manière un peu identifiée vous amène à voir des quantités incroyables de dossiers de maltraitance judiciaire des femmes. Au-delà de ce qui est imaginé, bon, il y a eu le collectif des 11, il y a vous, on arrive à identifier une série de choses, mais on a beaucoup de mal, on a encore beaucoup de mal à l'objectiver aujourd'hui. Je voulais juste te dire sur les avocates, c'est vrai qu'il y a moins d'avocates qui travaillent sur les questions d'inégalité patrimoniale que sur les questions de violence. Ce qui est en train quand même de se passer, c'est qu'on identifie de mieux en mieux la part que prennent les violences conjugales post-séparation. Et l'outil qu'est les sujets économiques, que sont les sujets économiques et les sujets de garde d'enfants, qui sont d'ailleurs souvent liés, dans les violences post-séparation. Et il y a aujourd'hui des groupes d'avocates, je pense quand même à toutes celles de la Fondation des Femmes, qui travaillent sur cette articulation-là, c'est-à-dire de mettre en exergue à quel point les violences économiques relèvent des violences faites aux femmes. Et c'est un travail assez lent. Moi, je suis, comme vous, toujours désespérée de voir les femmes qui arrivent dans les cabinets des JAF, convaincues que comme elles ont une femme en face d'elles, eh ben, elles vont trouver une espèce de compréhension implicite de leur situation et qu'ils ne la trouvent pas. Mais bon, je suis toujours étonnée de voir que les magistrats sont quand même les dernières personnes dans ce pays qui souhaitent qu'on les appelle Madame le. Et je ne trouve pas ça tout à fait par hasard. Il faut toujours dire Madame le procureur, il faut toujours dire Madame le président de la Cour. Elles ne veulent pas féminiser leur nom. Et c'est assez significatif d'un rapport aux questions féministes. Et puis, enfin, ma question, c'est aussi pour Isabelle Saint, si elle est encore là. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan législatif aujourd'hui? Parce que nous, on est un peu désarmés sur le plan législatif, parce qu'on a l'impression d'avoir, pas tout traité, mais d'avoir, bon, il y a encore des choses, il y a des lignes de représentation d'enfants qu'on peut encore travailler, mais globalement, d'avoir posé des règles formelles qui sont des règles égalitaires et d'être désemparés devant la résistance de la pratique aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous identifiez à la suite de votre travail qui pourrait relever du domaine des propositions de loi? Et puis enfin, est-ce que vous allez continuer de travailler sur ces sujets, parce que les sociologues, les chercheurs sont parfois un petit peu frustrants parce qu'ils travaillent sur un sujet et puis après, bah, leur vue de chercheur les amène à travailler sur un autre. Et donc, est-ce que vous envisagez une continuité?
Alors, on est aussi très lent, c'est ça, très lente, c'est ça aussi.
Je ne me suis pas présentée, pardon, mais je ne me suis pas présentée, excusez-moi, mais il y a mon nom. Et donc, je parle du point de vue du législateur.
On vous avait reconnu, Laurence Rossignol. je disais qu'on est aussi très lente. Et là, par exemple, l'écriture du livre et la diffusion du livre nous occupent quasiment à plein temps. Donc, on n'en est pas. Donc, on avait les choses qu'on avait déjà lancées avant. Je pense qu'on est encore là-dessus pour un bout de temps. On ne va pas changer tout de suite de sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan législatif? Il me semble qu'il y a quand même des choses à faire. Hein. Même quasiment dans l'immédiat, il y a plein de choses à faire d'un point de vue fiscal. Ça, c'est évident. Par exemple, un truc très simple à faire, c'est sur les déclarations de revenus. Le taux, alors c'est personnalisé et individualisé, ce qui fait que personne n'y comprend rien, mais actuellement, les femmes en couple payent des impôts pour leurs conjoints qui gagnent donc en moyenne 42% de plus qu'elles. Il suffirait que l'option par défaut, ça soit le taux individualisé, et on aurait des femmes qui pourraient en couple épargner. Ça c'est quelque chose de vraiment très, très simple. Et d'un point de vue fiscal, sur le système socio-fiscal, il y a vraiment énormément de choses à faire aussi pour interroger les enjeux de quotient familial, de déclaration des pensions alimentaires. Pourquoi est-ce que les pensions alimentaires sont fiscalisées en France?
La réponse de Bercy, c'est parce qu'elles sont déductibles.
Oui, elles sont déductibles.
Et si elles sont plus déductibles, ils ne les paieront plus.
Oui, c'est une vision androcentrée des choses, on peut le dire. Donc sur le plan fiscal, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on a bien identifié aussi du côté de la caisse d'allocation familiale, l'allocation de soutien familial, il y a aussi des choses très importantes à faire. Ce n'est pas du tout normal qu'une femme qui se remette en couple perde l'allocation de soutien familial. Ça présuppose que le nouveau conjoint paye pour les enfants. Donc là, il y a aussi plein de choses à faire du côté de la caisse d'allocation familiale. On pense aussi, on s'est exprimé là-dessus avec Sybille, que la réforme des pensions alimentaires et de la perception des pensions alimentaires impayées est tout à fait insatisfaisante. Si le Trésor public mettait le nez là-dedans, ça serait beaucoup, beaucoup plus efficace. Trouver des systèmes pour que ce ne soit pas les femmes qui soient demandeuses en permanence auprès de la caisse d'allocation familiale et que ce soit les hommes, en fait, qui fassent les démarches administratives pour payer pour leurs enfants serait une autre forme de réforme possible. Ce qu'a dit Isabelle Saint tout à l'heure était très important. Le système des... Bon, moi, là, je pense qu'il faut changer le terme parce qu'on a revu avec Sybille, on a fait un travail sur les données de l'INA, on a revu en fait les archives de l'INA sur le tournant des années 2000 au moment où les prestations compensatoires sont devenues un capital et non plus une rente, versées sous forme de capital et non plus de rente. Et il y a eu vraiment une sorte de lynchage médiatique de la prestation compensatoire. Donc, je pense que le terme n'est plus adapté, mais il faudrait arriver à étendre ces mécanismes de compensation économique à l'ensemble des couples et pas seulement aux couples mariés, parce que c'est en train de se réduire comme peau de chagrin, ces mécanismes de compensation. Puis, il y a aussi plein de choses à faire sur la retraite. les enjeux des retraites des femmes, des pensions de réversion. On va arriver, on a une catastrophe annoncée, en fait, qui est la pauvreté des femmes âgées. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, je crois que c'est 40% des pensions touchées par les femmes sont des pensions de réversion, c'est-à-dire liées aux droits acquis par leurs conjoints. Sauf que là, on va arriver à des générations de femmes qui ont été moins mariées, peu mariées, divorcées et qui vont avoir du mal à toucher, et avec toujours des petits salaires, et donc ils vont avoir du mal à toucher des pensions de réversion conséquentes. Donc là aussi, il me semble qu'il y a un chantier énorme sur la pauvreté des femmes âgées. Bon voilà, j'ai donné simplement quelques exemples, peut-être que Sybille veut.
Oui, alors je dirais il y a plusieurs pistes hein, couvrent notre travail. Il y a tout ce que vient d'évoquer Céline. Il y a une autre question qui est celle du poids du patrimoine dans notre société. Donc la question de l'héritage. Est-ce que c'est légitime l'héritage qui est très peu taxé hein, les transmissions en France de parents à enfants sont très peu taxées. Et puis, on peut regarder les choses aussi du point de vue suivant. Il y a une enquêtée, moi, que j'ai rencontrée, qui était une femme qui a subi un partage successoral tout à fait très nettement défavorable. Donc, dans une famille de boulangers, c'est son frère qui héritait de la boulangerie, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Par ailleurs, elle a divorcé deux fois. À chacun de ces divorces, elle dit elle-même hein, laisser la maison à son ex-conjoint. Et elle me dit, oui, bon, mais moi, je n'avais pas envie ça, on pourrait y revenir, mais elle n'avait pas envie de conflit. Donc, le rapport des femmes au conflit, bon, ça, on pourrait y revenir. Hein, le fait que dans les familles, elles sont socialisées, au contraire, à assurer la permanence du lien familial. Donc, elle ne voulait pas de conflit ni avec ses frères et sœurs, ni avec le père de ses enfants. Et puis, elle dit qu'elle se sentait plus libre comme ça, que ça lui permet de se sentir libre, de ne pas devoir des choses ni à ses parents, ni à ses ex. Il me semble très important de souligner que c'est une femme qui a connu une trajectoire, une petite ascension professionnelle à la SNCF, donc employée de la SNCF, donc un emploi à statut, que par ailleurs elle a bénéficié de logement social par son employeur au cours de sa vie, qu'elle arrive relativement tôt à l'âge de la retraite, avec une retraite très correcte, et qu'au fond, il existe des mécanismes, donc le logement social, les emplois à statut, hein, la fonction publique, c'est un des endroits où les femmes peuvent connaître, notamment hein, toutes les femmes enseignantes, hein, mais pas que, il y a plein d'emplois dans la fonction publique qui permettent aux femmes de faire valoir leur diplôme de façon souvent moins inégalitaire que dans le privé. Donc, oui, j'ai dit le logement social, la fonction publique, il y a évidemment tous les services publics de prise en charge des enfants, y compris l'école, évidemment. Enfin, tout, et aussi le service, notre sécurité sociale, les services publics, logement social. Il y a un seul type de logement que les femmes conservent davantage que les hommes après les séparations, c'est le logement social. Et c'est souvent ça qui permet aux femmes de familles monoparentales de se loger dans des conditions décentes. Autrement dit, hein, tout un versant de politique de lutte contre les inégalités entre femmes et hommes, ce sont des politiques de logement social, d'amélioration des services publics, etc. Ça, c'est une autre dimension
importante. De défense des retraites par répartition.
Voilà, de défense des retraites par répartition, etc. Donc, une autre chose juste sur laquelle je voulais revenir. Alors, d'abord, sur l'articulation violence économique, violence conjugale. Et le lien est hyper fort. Et nous, en fait, c'est aussi à l'issue de l'écriture du livre, on s'est rendu compte que dans plusieurs exemples dans lesquels notamment les femmes avaient quitté le domicile, ce qui les plaçait dans une position très délicate pour conserver le domicile conjugal, enfin le racheter à leur ex-conjoint, eh bien en réalité, si on revenait à nos observations des rendez-vous chez les avocates, en l'occurrence c'était des avocates, on pouvait lire que ces femmes, elles avaient quitté précipitamment le domicile conjugal parce que, je cite, « il avait un fusil, parce que j'avais peur ». Autrement dit, que les violences physiques aussi, elles sont aussi à l'origine des inégalités économiques qu'on observe après les séparations. Donc effectivement, le lien est très très fort. Je voulais aussi revenir sur un point, c'est celui des femmes juges. Pourquoi ces femmes juges, elles sont si peu solidaires des justiciables femmes? Et vous parlez du fait qu'elles veulent se faire appeler Madame le procureur. En matière familiale, ça c'est quand même très frappant. Il y a un discours très violent dans l'espace public contre la féminisation de la magistrature. Alors, il est particulièrement violent sur les affaires familiales, avec les associations de défense des droits des pères qui disent que c'est une justice rendue par les femmes pour les femmes. Il est quand même très existant. Enfin, je veux dire, le ministère de la Justice n'a cessé de s'inquiéter de la féminisation de la magistrature. C'est-à-dire qu'y compris à l'ENM, ces femmes entendent qu'il y a un problème avec la féminisation de la magistrature. Donc, l'institution elle-même ne les aide pas à se sentir à l'aise dans leur basket de femmes juges et d'assumer en fait le fait qu'elles soient juges, mais aussi des femmes. Voilà, et je ne sais pas si on répond aussi aux questions qu'il y a dans le chat. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions et ces remarques.
On a une question de Anne Châteauneuf-Malclès qui vous remercie pour votre présentation et qui demande comment s'opère la transmission dans les familles de classe populaire où le patrimoine est peu élevé mais pas inexistant et où les femmes s'occupent davantage des questions d'argent, comme vous l'avez rappelé.
Alors oui, pour répondre à cette question-là, dans le livre, on en donne des exemples. En gros, on essaye de montrer comment dans les familles de classe populaire, et en particulier pour les femmes de classe populaire, donc comme on l'a dit, qui sont en première ligne pour gérer le problème du bouclage des fins de mois, ce dont on s'aperçoit, c'est que le peu qui s'accumule est très mal protégé, pour le coup, du point de vue de l'État. On donne un exemple comme ça d'une dame qui a hérité de quelques milliers d'euros de sa mère et qui les perd au moment où son ex-conjoint, dont elle n'est pas officiellement divorcée, rentre en maison de retraite et où il faut payer la maison de retraite. Et c'est-à-dire qu'à l'inverse des classes supérieures et en particulier des classes supérieures qu'on appelle possédantes, c'est-à-dire qui ont beaucoup de patrimoine économique, dans les familles fortunées, en fait, les gens sont accompagnés quasiment depuis le berceau par des professionnels qui les aident à gérer la fortune, à faire de l'optimisation fiscale, et donc en fait à mettre en conformité leurs arrangements économiques intimes avec la légalité. En fait, tout est fait pour qu'ils protègent au maximum leur patrimoine. Dans les familles de classe populaire, c'est le contraire. Il y a des moments de confrontation, en fait, entre des arrangements économiques familiaux qui sont bricolés complètement en dehors du droit, des formes de solidarité qui sont pensées au sein de la famille, mais sans aucune interaction avec des professionnels du droit, et puis des moments de confrontation, un décès, une entrée en maison de retraite, la dépendance d'une personne âgée, etc., donc une séparation, des moments de confrontation qui viennent fragiliser, en fait, le patrimoine familial. Voilà, je dirais ça pour répondre à cette question. Mais effectivement, on essaye aussi de montrer quand même les différences dans les classes populaire, parce qu'on observe aussi dans les classes populaires des familles dans lesquelles il y a des revenus très faibles, par exemple, et un niveau de diplôme faible, mais quand même des biens, quoi. Et comment, avec des rapports un peu beaucoup plus compliqués aux professionnels du droit que dans les classes supérieures dont je parlais précédemment, et en même temps, là aussi, des mécanismes d'inégalité entre femmes et hommes, où les hommes ont davantage à avoir la main mise sur ce petit patrimoine que dans les classes populaires où il n'y a pas de bien.
Merci pour votre réponse. On a une autre question de Candice Grelot. À quel point est-ce la question de la réputation des notaires peut jouer dans le refus de remettre en cause les partages inégalitaires, notamment dans les campagnes? N'y a-t-il pas un risque de perdre des clients pour un notaire s'il refuse de faire cette comptabilité inversée?
Alors, la manière dont je répondrai à ça, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, les notaires, il y a vraiment c'est une profession et c'est des conditions d'exercice qui sont différentes avec des clientèles qui sont différentes selon le lieu d'exercice. Mais ce qui est commun à ces notaires, c'est que C'est une profession quand même tout à fait particulière parce que ce sont à la fois des officiers ministériels, donc ils ont une mission de service public, et notamment leur mission de service public, bah, c'est de gérer tout ce qui a à voir avec la propriété, donc et collecter l'impôt sur tout ce qui a à voir avec la propriété et les patrimoines. Donc d'un côté, ils travaillent pour l'État. On ne peut pas s'installer comme ça comme notaire, hein. Il faut être titulaire d'une charge et elles sont limitées en France, et c'est pour ça que c'est aussi cher. Donc, ils travaillent pour l'État. Et d'un autre côté, c'est des chefs d'entreprise, profession libérale, qui vont chercher à développer une clientèle et qui vont travailler selon leur lieu d'exercice pour avoir à chaque fois une clientèle privilégiée, la plus rentable possible, si je puis m'exprimer comme ça. Alors, eux, ils ne le diraient pas comme ça. Hein. Ils reçoivent bien entendu tout le monde, mais ils ne travaillent pas de la même façon selon leur type de client. Donc, typiquement, les notaires de province regardent beaucoup les notaires de Paris en disant « Ah, à Paris, on peut faire vraiment du sur-mesure, utiliser des outils du droit très sophistiqués parce qu'on a une clientèle avec des patrimoines très élevés qui permettent d'utiliser ce droit très sophistiqué. Alors que des plus petites études notariales, elles vont dire qu'il faut faire du chiffre, donc il faut aussi recevoir beaucoup de clients et faire un conseil beaucoup plus standardisé. Et donc, du coup, donc je réponds de façon un peu détournée à cette question, mais il y a cette idée qu'ils ont cette clientèle privilégiée qui est la clientèle à capital économique. Donc des gens qui ont du patrimoine, des entreprises, du patrimoine immobilier. Et c'est vrai que cette clientèle privilégiée, qui varie encore une fois selon les lieux d'exercice, ils vont la chouchouter ou la, en tout cas, c'est leur fonds de commerce, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'ils cherchent à ce qu'il n'y ait pas de conflit. Ils cherchent à trouver un consensus. Un notaire, c'est très particulier parce qu'on vit en France et donc on sait ce que c'est que les notaires, mais ce qui est intéressant, c'est de faire de l'exercice d'aller parler de la profession notariale dans des pays où ça n'existe pas. Et là, d'un seul coup, on est obligé de dire un certain nombre de choses. Un notaire, c'est un peu comme un médiateur d'une certaine façon. Il n'y en a qu'un seul pour toutes les parties. Ce n'est pas comme un avocat où chacun a son avocat. Là, c'est vraiment une profession libérale qui coordonne plusieurs parties. Donc, vraiment, l'idée de consensus, de paix des familles, qu'il n'y ait pas de vague, que les gens s'entendent, ça fait partie de la définition de leur métier. Et donc, en effet, et aussi la confidentialité est cruciale. C'est pour ça que les enquêtes sur les notaires sont aussi difficile à mettre en place quand on est sociologue, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille regarder comment ils font justement et que la confidentialité, c'est leur fonds de commerce. Et donc, il y a quelque chose d'assez vrai dans la question, c'est qu'il faut avoir une réputation locale. Il n'est pas question de faire un scandale, il n'est pas question de divulguer des informations sur les familles. Et donc, du coup, en effet, ils ont tendance à se couler dans les stratégies familiales de reproduction familiale. Et pas que dans les campagnes, en réalité, plus largement, je pense. Voilà, ça serait ma manière de répondre à cette question, qui n'est pas frontale, mais…
Merci. Alors, donc, dans la discussion, on avait une autre question, je la retrouve, de Marion Parra, qui demandait, par rapport à ce que vous avez dit juste avant, qui demande, n'est-ce pas paradoxal de dire que le mariage prévient les inégalités ? Quand les femmes sont dans le mariage, elles sont dépendantes de leur époux, leurs conditions de vie sont certes meilleures, mais les inégalités avec leurs époux sont toujours effectives. La séparation révèle les inégalités camouflées par le mariage et accentue la pauvreté. Donc, c'était par rapport à tout à l'heure que vous aviez dit que le mariage apporte plus d'égalité, mais avec le fait qu'il y a de moins en moins de mariages, ouais. C'est un risque de retour des inégalités.
Enfin, oui, alors effectivement, c'est une question à la fois complexe et importante. En fait, il faut avoir en tête des jalons historiques. Céline a rappelé ces dates, jusqu'en 1965, les femmes n'avaient aucun pouvoir de gestion sur le patrimoine du couple et même sur leur patrimoine propre, et il fallait qu'elles aient une autorisation spécifique de leur conjoint pour ouvrir un compte en banque, etc. À partir de 1965, les choses alors s'égalisent pas totalement, mais en gros, voilà, les femmes d'abord peuvent gérer elles-mêmes leur patrimoine propre et elles ont des droits sur le patrimoine commun, ou en tout cas leur époux doit aussi avoir leur permission pour prendre certaines décisions sur le patrimoine commun. Et puis il faut attendre 1985 pour que hommes et enfin conjoints et conjointes dans les couples mariés aient exactement le même, soient tous les deux administrateurs et administratrices au même titre du patrimoine conjugal. C'est pour ça aussi que l'institution conjugale est pensée par les féministes comme une institution patriarcale. C'est aussi cette histoire qui fait ça. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que au moment même, enfin en 1985, où les droits s'égalisent dans le couple, les droits en matière de gestion du patrimoine, eh bien, on a déjà une explosion en fait de l'union libre. Au final, il nous semble qu'aujourd'hui, il est évident que la conjugalité hétéronormée est effectivement profondément inégalitaire et patriarcale, puisque c'est là effectivement que s'opère la division sexuée du travail qui conduit hein, à ces inégalités économiques. Mais le mariage en lui-même, en tant que dispositif juridique, il a de fait des effets protecteurs pour les femmes au moment des séparations. Alors, ce qu'on montre dans notre livre, c'est que malgré tout, hein, il y a des façons de contourner ce dispositif juridique. Hein, les comptabilités inversées sexistes que Céline a exposées, ce sont des comptabilités qui opèrent aussi pour quand on partage le patrimoine conjugal, qui ne va pas être partagé parfois exactement à part égale. Mais de fait, aujourd'hui, le mariage en tant que dispositif juridique est relativement protecteur par rapport dans le cadre de la conjugalité hétéronorme.
Merci beaucoup. On a encore de nombreuses questions dans le chat. Par exemple, dans quelle mesure est-ce que la formation des professionnels du droit, magistrats, avocats, notaires, peut être un levier pour pallier les inégalités dans la pratique ?
Ben oui, ça c'est sûr. Ça c'est vrai qu'une des questions qu'on nous pose le plus depuis que le livre est sorti, c'est de nous donner des noms d'avocates ou de notaires formés à ces enjeux. Qu'on n'en a pas parce que donc c'est pas la peine de nous écrire après parce que déjà on donne pas les noms des personnes qui ont participé au livre et en plus il n'y a pas de telle liste de professionnels du droit, donc ça serait un vrai enjeu à la fois militant professionnel en fait, de monter ce type de formation soit au sein des barreaux pour les avocats, au sein de la chambre des notaires, au sein de la formation continue de l'École nationale de la magistrature. On est, nous, un petit peu intervenus dans des formations à l'ENM sans beaucoup de succès, je dois dire, il y a quelques années. Sybille à Nanterre fait un cours que suivent des professionnels du droit, hein, des médiateurs, médiatrices familiales et des notaires salariés. Ça, c'est sûr que de toute façon, ça serait bien.
Il y a une remarque aussi sur les juges aux affaires familiales. J'ai appris que les juges aux affaires familiales étaient nommés et n'exerçaient ces exercices que par défaut et non par choix ni conviction. Cela me semble être un souci assez grave dans le système et les décisions que cela implique.
Ouais, alors ça, c'est un point, là, c'est plutôt les travaux du collectif 11 là, que je vais mobiliser pour répondre, mais c'est vrai que souvent, les gens n'ont pas bien en tête que les juges aux affaires familiales, ce sont des juges comme les autres, c'est-à-dire que c'était des gens qui ont fait l'École nationale de la magistrature, qui, à la sortie, ont demandé tel type de poste dans tel tribunal, puis se retrouvent, alors, en plus, un juge aux affaires familiales, c'est une fonction parmi d'autres pour les juges du siège dans les tribunaux de grande instance, hein, qui peuvent par ailleurs faire de la correctionnelle, etc. Donc, ce qu'on montre dans le livre du collectif 11, c'est que ces juges aux affaires familiales, donc c'est soit des juges qui passent par là, c'est-à-dire qui prennent ce type de poste, qui acceptent ce type de poste parce que ça leur permet d'avancer dans leur carrière, soit du point de vue des mobilités géographiques, soit du point de vue d'une ascension dans les différents grades de la magistrature, soit ce sont aussi d'anciennes, plutôt des femmes, anciennes juges des enfants, donc qui sont devenues juges pour devenir juges des enfants, qui est là une spécialité bien identifiée qu'elles ont pu demander à la sortie de l'ENM, et qui deviennent juges aux affaires familiales à un moment souvent de leur vie familiale, donc où elles-mêmes ont des enfants. Juge des enfants, ça requiert de faire des permanences, des choses comme ça. On est obligé de travailler sur place. Juge aux affaires familiales, il n'y a pas de permanence les week-ends, les soirées. On peut ramener ses dossiers à la maison. Et donc, elles acceptent des postes de juge aux affaires familiales à ce moment-là, avec quand même un certain goût pour, on va dire, les questions de prise en charge des enfants, etc. À la fois, il y a eu un article aussi de Céline et Muriel Mill hein, sur ces pratiques genrées et ces investissements genrés de la fonction. Mais ce qu'on montre aussi, c'est que, avec le collectif 11, c'est que malgré tout, tous ces juges, femmes et hommes, quelle que soit leur trajectoire antérieure, ils ont tendance à juger pareil. Pourquoi ils jugent pareil? C'est parce que souvent, les décisions sont prises dans les demandes des justiciables, en fait. Donc, en particulier en matière de résidence, souvent les justiciables sont d'accord pour ce soit la mère qui est la garde des enfants, par exemple. Mais même sur les pensions, hein, aujourd'hui il y a un barème et tout ça, et en fait ce qu'on essaye de souligner, et dans le livre du collectif 11, là on insiste beaucoup moins dans le genre du capital, mais c'est ce qui manque à ces juges, c'est du temps. On est dans un cadre où la justice a de moins en moins de moyens. Ils doivent entendre les justiciables dans un laps de temps de plus en plus réduit, prendre leurs décisions dans un laps de temps de plus en plus réduit. Et ça, c'est très, très peu propice à un changement de regard, en fait, à une conversion du regard sur les affaires familiales, c'est-à-dire se pencher sur une affaire, remettre en cause les arrangements entre conjoints, remettre en cause le sens commun que la femme est disponible pour s'occuper des enfants, que son travail domestique ne vaut rien, etc. Quand on a 20 minutes en moyenne pour entendre les gens et qu'on doit traiter 800 dossiers par an, c'est très compliqué, quoi. Donc, une des clés, c'est la formation, ça a été dit. Mais aussi cette question des moyens donnés à la justice, aussi des moyens d'investigation, parce que précisément sur les enjeux financiers, les enjeux économiques, il y a très très peu d'investigations demandées par les magistrats, parce que ça coûte, notamment parce que ça coûte de l'argent et qu'ils font de moins en moins, même d'enquêtes sociales. Enfin, voilà. Je ne sais pas si Céline, tu veux ajouter quelque chose là-dessus.
C'est bon.
Moi, j'avais une question vous parlez de la sociologie de la famille et que vous prenez le contre-pied de la conception notamment de François de Saint-Guy qui met les liens affectifs au centre de la famille et que vous êtes plutôt dans une perspective de voir la famille comme une institution économique. Est-ce qu'on peut considérer ces liens affectifs comme une ressource économique mobilisable dans différents moments de la vie, comme on voit par exemple que le divorce, c'est une perte de liens affectifs et de ressources économiques?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un effet, c'est vraiment, on tord le bâton dans l'autre sens et c'est pour ça que je l'ai présenté comme ça. Donc, c'est vrai qu'on sort de 30 ans de sociologie de la famille en France, mais pas que en France, en fait. Il y a totalement l'équivalent Anthony Giddens, par exemple, en Angleterre ou Ulrich Beck en Allemagne ont écrit des choses tout à fait similaires à celles de François de Saint-Guy. Donc, on a vraiment eu un moment, là, à l'année 90, début des années 2000, où on a étudié la famille que comme des relations choisies. Là, je ne suis pas la seule à le penser, mais le renouvellement de la sociologie de la famille, ça va vraiment se faire, ça se fait, c'est en train de se faire et c'est peut-être même déjà fait, mais maintenant ça va se voir, ça se fait par les études sur le genre. Et à partir du moment où vous introduisez le genre là-dedans, les rapports de pouvoir arrivent directement dans les rapports familiaux et on ne peut plus en rester à des relations choisies et cette espèce de vision un peu trop idyllique en réalité des rapports familiaux qui a, si on regarde bien, qui a beaucoup été écrite par des hommes blancs de classe supérieure qui étudiaient des familles de classe supérieure urbaine à capitale culturelle essentiellement. Donc nous, on a tordu le bâton dans l'autre sens Christine qui dit je confirme. et nous, on a tordu le bâton dans l'autre sens parce que en fait, quand nous, on a commencé à faire de la sociologie de la famille avec Sybille, quand on a fait concrètement nos thèses, on démarre nos thèses au tout début des années 2000, et même on avait fait des mémoires de master à la fin des années 90. En fait, ce qu'on nous renvoie, c'est l'idée qu'on travaille sur des familles particulières. Alors moi, avec mes viticulteurs, c'était vraiment les familles en voie de disparition, traditionnelles en voie de disparition. Donc il y avait une espèce de provincialisation comme ça de nos travaux. Et Sybille aussi, on lui disait ça. On lui disait, mais toi, tes familles, elles sont vraiment spéciales. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'elles ont bien voulu répondre à ton enquête. Et nous, en fait, les familles sur lesquelles on travaillait, les enjeux économiques, ils étaient vraiment partout présent. Mais bien sûr que les enjeux économiques ne sont pas indépendants des enjeux affectifs. C'est des familles. Et donc là-dessus, la référence pour nous qui est vraiment centrale, celle qui nous a formés à ces enjeux-là, c'est Florence Weber. Et la référence vraiment centrale, c'est Viviana Zelizer, avec son article qui avait été traduit en français sur les transactions intimes, qui est publié en 2005 dans Terrain et Travaux. Mais qui, en fait, derrière ça, il y a eu un livre qui est paru peu après, The Purchase of Intimacy, qui est vraiment un livre qui porte là-dessus, c'est-à-dire sur l'intrication des transactions intimes et le fait que on dépense, donc ce que dit Zelizer, c'est qu'on dépense une énergie sociale énorme pour séparer les questions affectives qui sont très souvent des questions familiales. Elle parle d'affectivité, donc c'est plus large, mais qui sont souvent des questions familiales, et les questions économiques, alors qu'il y a une banalité de l'intrication des transactions intimes, c'est-à-dire de transactions économiques entre des personnes qui partagent une intimité et des relations personnalisées mêlées d'affectivité. Et donc, voilà, là, on a Donc, avec ce livre très matérialiste, on tire le bâton dans l'autre sens et on devient. Mais tous ces enjeux économiques sont pris tout le temps dans des rapports familiaux, qui sont des rapports familiaux où il y a de l'affectivité, mais ce n'est pas que de l'affectivité positive. Moi, si je repense rétrospectivement au cours qu'on a eu de François de Saint-Guy, il y avait une espèce de famille complètement enchantée, alors même que la famille, on l'a dit, hein, c'est le lieu de la vie. Violence, c'est le lieu de l'inceste, c'est le lieu de la culpabilité, de la jalousie. Il y a aussi du sentiment négatif. Alors, il y a aussi des sentiments positifs, il y a aussi de l'amour, il y a aussi du support mutuel, du care, il y a aussi ça, mais il n'y a pas que de l'affectif positif, il y a aussi de l'affectif négatif.
Et pour compléter ce qu'a dit Céline, pour finir, il y a une autre référence, moi, qui me semble importante, c'est par exemple le travail d'Arlie Hochschild sur le travail émotionnel. C'est-à-dire qu'en plus, l'affection, ce n'est pas qu'une ressource, c'est aussi, dans tout un tas de situations, le produit d'un travail. Et ce travail, il est aussi genré. Et il est souvent produit par les femmes. Hein. Je parlais tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'important. Hein. Des femmes, par exemple, et ça fait partie des raisons pour lesquelles elles acceptent des injustices économiques qui vont travailler. Et ça, c'est intéressant dans les entretiens où on voit quand les femmes racontent les injustices économiques qu'elles subissent, tout le travail qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles les perçoivent et tout le travail qu'elles font pour ne pas se mettre en colère, pour ne pas aller au conflit. Et parfois, même au contraire, hein, on donne un exemple, par exemple, d'un conflit dans une succession très forte entre deux frères. Eh bien, les sœurs, elles vont plutôt mettre de l'huile dans les rouages. Donc voilà, en plus, cette affectivité, elle peut être le produit d'un travail émotionnel qui est aussi un travail genré, gratuit, produit, pas que, hein, mais produit de façon spécifique par les femmes, hein, ce que montre aussi bien Arlie Hochschild, à la fois pour le travail, là où c'est comme le care, à la fois pour le travail non rémunéré et pour le travail rémunéré.
Ben, merci beaucoup pour la réponse à cette question. Je vais